vie après normal.
Pour revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en parallèle de votre poste à l'Éducation nationale, vous avez représenté l'État et le gouvernement au Centre d'études spatiales. Vous avez été commissaire au Bureau des recherches géologiques et minières, donc BRGM, au CNRS. Votre retour au CNRS.
Oui, retour au CNRS comme administrateur.
Voilà, c'est ça. À l'Institut national de recherche en informatique et automatique, l'INRIA.
Je ne suis pas resté très longtemps. Là, oui.
France Télécom.
Aussi, comme représentant de l'État.
EDF, la COGEMA.
L'EDF, j'y suis resté très longtemps, parce qu'en fait, j'y suis resté plus de 3 ans chez EDF, hein, enfin très longtemps, pas assez longtemps, disons, oui. Et la COGEMA, oui, aussi. Si vous voulez, je veux dire une chose, alors je ne vous en ai pas parlé encore, mais la chose la plus importante peut-être qu'on ait fait quand j'étais administrateur général, c'était de créer Areva. Hein, parce que le CEA n'est pas seulement un organisme de recherche, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est aussi un organisme de manufacture et c'est aussi une puissance financière, parce que nous étions de principal, nous portions les intérêts de l'État dans Framatome, COGEMA, etc. On a fait Areva à partir de toutes ces participations éparses. On a fait Areva à l'époque avec de bonnes chances de succès. Si après ça a dérivé, il faut interroger les responsables de l'époque. En ce qui me concerne, la création d'Areva était une bonne chose. Quoiqu'avec 15 ans plus tard, évidemment qu'il faut regarder un peu à nouveau à quel bébé on a donné naissance. Là, hein, bon. Et puis on a créé aussi le fonds de démantèlement des installations obsolètes du CEA, qui était aussi un instrument financier, qui était doté de plus de... Je ne me souviens plus très bien, mais c'était des sommes qui sont autour de 1 milliard d'euros. Quoi.
Parmi les multiples fonctions que vous avez exercées, je voudrais juste revenir aussi sur votre retour, entre guillemets, dans une ENS, parce que vous avez été aussi président du conseil d'administration de l'ENS de Cachan, entre 2001 et 2003. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette petite parenthèse dans votre carrière ?
C'était une expérience intéressante parce que c'était Madame Dupas qui était directrice générale à l'époque. Et donc c'est elle qui faisait le travail. Hein. Moi je ne faisais que présider le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait en sorte d'approuver les budgets et d'approuver également la stratégie de l'école. Ça m'a amusé de me retrouver là, si vous voulez, et c'était très intéressant parce que j'ai soutenu autant que je pouvais Madame Dupas dans ses efforts. Un des grands sujets des écoles, à mon avis, c'est le fait qu'elles n'arrivent pas à créer une véritable conscience chez leurs alumni, hein, chez les anciens élèves. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue sur la cotisation que je trouvais ridicule qu'on demandait aux anciens élèves, qu'on demandait 30 euros aux anciens élèves, ils vous donnent 30 euros, hein, vous leur demanderiez 60, ils donneraient 60. Non, faut pas, c'est pas... Hein, et probablement que si on leur demandait 500, ça serait pas si absurde, si vous voulez. Pas seulement une question d'argent, c'est une question véritablement d'appartenance. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les Normaliens quittent l'école, et du coup, ils n'ont plus ce sentiment d'appartenance. Ils savent, ils sont fiers, ils sont contents d'avoir fait normal. Voilà, là, en ce moment, je préside le Conseil stratégique de la recherche, hein, qui a été mis sur pied par Madame Fioraso, par le Premier ministre. Et ça, vous voulez, ça, c'est très intéressant aussi. Ils sont tous normaliens autour de la table, aussi bien l'industrie que le... Hein, mais ça ne ressort pas, si vous voulez, c'est pas... Hein, voilà. Et d'ailleurs, quelque part, ceux qui sont restés dans l'université ou au CNRS regardent les autres avec une sorte de méfiance.
En 2004, vous devenez membre de l'Académie des technologies. Et puis, de 2003 à 2006, vous êtes président de l'Association française pour l'avancement des sciences, ou AFAS. Donc, c'est l'une des plus prestigieuses associations scientifiques françaises qui a été fondée en 1872. Donc, parmi vos prédécesseurs, on peut citer Claude Bernard ou Paul Langevin. Qu'est-ce que ces reconnaissances symboliques ont représenté pour vous à ce moment-là de votre carrière ?
L'Académie des technologies, je dirais, c'était quelque chose que j'ai pris comme mon point de décoration, si vous voulez. Hein. C'était bien, j'étais content. Hein. J'étais content d'être reconnu d'un point de vue scientifique et technologique par des pairs qui sont eux-mêmes... C'était quelque chose que j'ai fait un peu aider à sa création en 2000, hein, non, en 98 ou 99, quand j'étais à la direction des technologies. Et bon, ça me fait plaisir, bien que je sois assez peu présent parce que j'ai plein d'autres activités, de me retrouver de temps en temps au milieu de tous ces gens qui sont des grands esprits pour la plupart. J'ai fait ça en fait, pour tout vous dire, un peu pour rendre service à un ami qui était le précédent président. Mais bon, j'ai trouvé ça amusant, intéressant. Mais enfin, si vous voulez, malheureusement, cette association a perdu sa pertinence à partir du moment où elle n'est où le CNRS a été créé.
Donc, vous êtes également spécialiste dans le conseil en stratégie pour de nombreuses entreprises et pour des organismes publics. Depuis 2013, vous êtes président du conseil stratégique de la recherche au CSR, c'est ça ? Vous l'avez dit précédemment. Donc, l'organisme qui a été créé en 2013 par Madame Fiorazzo, vous l'avez dit. Et en fait, vous proposez les grandes orientations de la stratégie nationale en matière de recherche scientifique. Donc en fait, tout au long de votre carrière et des fonctions que vous avez exercées, vous avez oscillé entre la recherche théorique au CNRS et le développement scientifique et industriel. Est-ce que selon vous, il reste des progrès à faire en France pour faire dialoguer le monde académique et la recherche théorique avec le monde de l'industrie ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est bien de préserver une certaine indépendance entre ces deux domaines ?
Alors qu'il reste beaucoup de difficultés à les faire dialoguer, c'est évident. Et en fait, je suis... malheureux d'avoir à dire qu'il y a eu des progrès, bien sûr, que la situation qu'on connaissait en 1970 ou 1975 n'est pas la même celle qu'on connaît en 2005. Il y a deux générations pratiquement, ou une bonne génération de chercheurs entre qui a connu le monde, je dirais, entre ces deux dates. Et donc ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé à ouvrir l'esprit, disons, du monde de la recherche, qui de toute façon... a toujours été multinational, même s'il est plus exactement qu'il y a toujours eu un contexte multinational, surtout à partir du moment où dans les bons laboratoires on essayait de publier dans les revues internationales. Donc ça, si vous voulez, je dirais le monde de la recherche, bien qu'il soit très nombriliste et centré sur leurs petits problèmes du jour, quoi. Hein, il a en même temps une dimension assez curieusement et une dimension internationale par les contacts qu'il entretient et par les stages, etc., les congrès auxquels il assiste dans le monde entier. Donc ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect des choses, c'est que l'industrie se méfie de l'université. Et en fait, tout ça, ça remonte, et c'est mon diagnostic personnel, est que il y a, c'est pas tellement le lobby des X-MID ou le lobby des ENARC ou le lobby des chercheurs, c'est que quand même, si vous voulez, la France est notre pays est un pays où les différences idéologiques ont été très très marquées et que malheureusement il en reste des traces, en particulier dans le milieu des chercheurs. Je cherche pas à mettre le blâme sur les chercheurs, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de méfiance vis-à-vis du monde industriel, vis-à-vis du fait de gagner de l'argent. Tout ça est entretenu par toutes sortes de syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes, mais qui ont un certain pouvoir d'agitation. Alors, comment on remédie à ça ? Je pense, si vous voulez, qu'on y remédie petit à petit quand même, à la fois parce que l'industrie se rend compte que la recherche et le développement sont devenues tellement importantes, non seulement pour eux-mêmes, pour leur position compétitive, mais également pour l'avenir qu'ils peuvent avoir dans tel ou tel pays, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de la recherche. Ils ont besoin du secteur de la recherche. Et quand on regarde la France, je vois avec beaucoup de plaisir quantité d'initiatives de ce qu'on appelle Open Innovation, qui font travailler en partenariat des industries entre elles, des labos de chercheurs avec des industriels, et également même des chercheurs qui sont quelquefois, par exemple, de sciences humaines et sociales, avec des chercheurs qui sont des chercheurs de sciences plus dures. Hein. Et ça, je trouve ça très, très encourageant. Dans l'industrie en particulier, on a toujours sous-estimé, je pense, l'apport que pouvaient avoir les sciences humaines et sociales. Et à partir du moment où une société va s'installer dans des pays de culture extrêmement différentes, moi, j'ai connu des gens, justement, au Conseil stratégique de la recherche. Vous savez, on a quand même trois de nos prix Nobel, on a plusieurs professeurs au Collège de France, etc. J'ai appris énormément de ces gens-là, tout en regrettant que quelquefois, ils soient trop centrés sur leur labo et qu'ils me disent on n'a pas, voilà, et qu'ils ne se préoccupent pas suffisamment, justement, des liens qu'ils peuvent établir avec le monde industriel.
Très bien. Parmi les prix Nobel, il y a Serge Haroche.
Il y a Tirol et il y a Madame Barré-Sénoussi. Et les professeurs au Collège de France, dans votre domaine, vous avez Supio et Descola.
Ça fait du beau monde. En 2008, vous avez participé à l'élaboration du Grenelle dans l'environnement, je crois.
Un peu, oui.
Qui a suscité quelques controverses. Vous avez aussi été membre du comité de pilotage créé par Delphine Bateau. Vous étiez pressenti pour en faire partie ?
J'étais pressenti et j'ai refusé.
Est-ce que vous avez eu envie de prendre vos distances avec les débats sur la politique environnementale après ces...
Le Grenelle de l'environnement, j'étais avec Marion Guillou, bien qu'elle ne soit pas normalienne. Elle était à l'époque la présidente de l'INRA et on a véritablement fait, je crois, du travail très intéressant sur, disons, quelles étaient les priorités de recherche qui correspondaient aux préoccupations environnementales. Donc je crois qu'on a fait du bon travail là. Je ne sais pas ce que c'est devenu, parce que naturellement, nos politiques ont une vision qui ne dépasse pas en général la prochaine élection. Donc tout le travail qui a été fait là, peut-être qu'il en a profité à certains, mais enfin, c'était pas... L'affaire de Mme Bateau, j'ai refusé pour des raisons personnelles. La façon dont elle avait monté son équipe ne me plaisait pas. Et les gens avec qui qu'elle avait pressenti ne me plaisaient pas non plus. Donc j'ai dit non. Alors après, comme je ne voulais pas la mettre dans l'embarras, c'est vrai que j'ai accepté que ça soit présenté comme quelque chose qui s'apparentait plus ou moins à une démission. Mais ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais vraiment fait partie de cette affaire-là.
Je regrette absolument pas d'avoir déclaré. Par contre, il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est peut-être pas dans votre petite
mémoire.
Hein, c'est que j'ai participé au livre blanc de la Défense nationale.
Ah, si, c'est marqué sur
la Défense et de la Sécurité nationale. Et ça, c'était très intéressant.
Alors, vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Je coordonnais un groupe qui s'occupait des relations avec les industriels. Et moi, j'en ai retiré plusieurs enseignements, si vous voulez. D'abord, l'importance de la recherche à destination des armées est très importante.
Vous avez travaillé au CEA sur la...
Oui, bien sûr, le CEA, on était... La deuxième chose qui était vraiment importante, c'était le fait, si vous voulez, que les armées et, disons, la défense, d'une façon générale, ne peut pas travailler avec des prototypes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller jusqu'à la commercialisation et que ça prend des échelles de temps gigantesques. Il n'y a qu'à voir l'histoire du Rafale, par exemple, mais le Rafale est un exemple qui est assez abouti, en fait. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, moi, je me souviens toujours du chef d'état-major des armées, après que je lui ai dit « la recherche, c'est important, il faut en faire, il faut la financer, etc. » Il m'a dit « oui, mais moi, je ne veux pas faire la guerre avec des prototypes, j'en ai essayé en 40 et ça n'a pas marché. Hein. » Donc, voilà. Donc, en fait, l'importance d'avoir un produit fini, opérationnel, solide, robuste, simple, c'est fondamental. Et puis, il y a les aspects de financement c'est autre chose, et ça touche à mes activités actuelles, peut-être un peu plus dans le conseil en stratégie, dans la banque. Mais si vous voulez, qu'est-ce que fait l'État dans le capital de toutes ces sociétés ? On peut se poser la question. Il n'y a rien à faire là. Par contre, si on arrivait à trouver le moyen de libérer ces capitaux pour les affecter aux besoins de la défense nationale, ça serait quand même extrêmement intéressant. Quand vous prenez Thalès, quand vous prenez Safran, par exemple, l'État, grosso modo, est entre 25 et 30%. Moi, ce que je dis, c'est que l'État n'a rien à faire là, qu'il a bien d'autres moyens de contrôler ses sociétés s'il en a envie, que de posséder une portion du capital. Donc, en fait, moi, ce que je proposerais, c'est que l'État se délaisse de ce capital et que cet argent soit affecté aux besoins de la défense. En particulier la recherche, mais pas seulement. La défense aussi a des efforts à faire pour limiter ses coûts, etc. Je ne veux pas dire que ce n'est pas des petits sons non plus, hein. Mais voilà.
Pour finir, j'ai quelques petites questions sur la vie à l'ENS. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre pire souvenir à l'ENS et après le meilleur?
Si vous voulez, les souvenirs de l'ENS que j'ai eus, on était des bébés, hein, quand on arrive là, si vous voulez, moi j'avais 20 ans. Quoi, hein. Bon, donc... Donc on arrive là, ce qui était sympa, c'était je me suis fait des amis pour la vie. Même encore maintenant, alors il y en a beaucoup que j'ai un peu perdu de vue forcément, parce que j'avais choisi une voie quand même assez différente des autres. Mais j'en ai encore quelques-uns qui sont devenus profs de spécial, profs de ceci, de cela. Il y en a encore, je vois. Il y a un chercheur assez connu qui s'appelle Monsieur Pro, qui était pendant longtemps directeur de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle. Bon, il y a des gens avec qui j'ai gardé des contacts, et puis, être normalien, bien qu'on ne soit pas un lobby, je reçois toujours aujourd'hui, quand un jeune normalien me demande un entretien, je le reçois toujours. Hein. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... J'essaie d'aider un peu, dans la mesure de mes moyens, ces jeunes à entrer dans la vie. Donc le souvenir de l'école, c'est devenir un homme, quoi, finalement. Hein. Un peu ce que probablement pour beaucoup d'autres, le service militaire faisait. On était là... voilà, on était... C'est d'une certaine façon, c'est ça. Alors, à l'époque, c'était pas simple, parce qu'il n'y avait pas de filles.
Oui,
on était séparés.
Il y avait Fontenay,
il y avait Fontenay, voilà, c'était l'horreur, ça. Bon, enfin, ceci dit, on arrivait quand même... après, il y a un autre souvenir de l'école, c'est celui de mai 68.
Ah oui, je veux.
Alors, mai 68, ça, c'est... Oui, mais mai 68, moi, on l'a vécu... L'école était à Saint-Cloud. Donc, si vous voulez, on était assez loin des événements, quand même.
Oui.
Enfin, tout d'un coup, on a découvert qu'en notre sein, il existait un petit groupe de trotskistes et de maoïstes, quoi, qui avait pris possession d'une bonne partie du rez-de-chaussée de l'immeuble ou de chambre des élèves, là, et qui utilisaient ça pour faire tourner leur tract, leur propagande, etc. C'est assez marrant. Ils n'étaient pas particulièrement méchants ni agressifs, hein, mais on avait nourri ça en notre sein sans véritablement le savoir. Mm-hmm. Puis enfin bon, après ça, si vous voulez, c'était tous les trucs qu'on fait quand on est des gamins, c'est-à-dire Saint-Cloud, c'est quand même assez bourgeois, n'est-ce pas? Donc on avait mis en place un haut-parleur, en général vers 3h du matin, lançait des slogans du genre « bourgeois, on vous étranglera tous », etc. Des trucs de gamins, quoi.
Est-ce que vous pourriez nous dire le meilleur conseil qu'on vous a donné, en fait, au cours de votre carrière ?
Alors, dans ma carrière, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est qu'il fallait être intelligent et adaptable. Intelligent, je ne sais pas si j'ai réussi, mais adaptable, je pense que j'ai réussi. Puis il y a un autre conseil qui est très important, et ça, c'est peut-être pas un conseil, mais si, peut-être, au fond, si, c'est un conseil. Dans la vie, il y a des trains qui passent, et que soit on monte dedans, soit on monte pas dedans. Que si on monte pas dedans, si on monte dedans, on prend un risque. Mais si on monte pas dedans, on prend un risque peut-être encore plus grand, qui est de finalement de se scléroser, de s'aigrir, etc. Et puis il y en a un autre. Alors il y a des conseils plus directs sur la façon de. Moi, je me souviens d'un de mes patrons chez Schoenberger qui m'avait dit, tu vois, pour être un chef, hein, faut savoir choisir les gens. Ça c'est la première chose. Déléguer, voilà, et puis contrôler. Et ça, je crois que j'ai appliqué ça continuellement. Il y a d'autres conseils sur le recrutement, etc.
Le conseil que vous donneriez à un élève de l'ENS qui vous écoute et qui voudrait se réorienter, quitter la recherche pour se lancer dans l'industrie, par exemple ?
Bah, y a aucun problème, en fait, si vous voulez. Alors après, bon, ça dépend. Si vous allez dans l'industrie, il vaut quand même peut-être mieux, encore maintenant, sortir d'une section scientifique. Hein. Mais je veux dire, il n'y a aucun problème. Un élève de l'ENS qui veut entrer... Alors, il est probable qu'on lui proposera plutôt, au départ, des fonctions de recherche et développement, mais après, c'est à lui d'élargir son spectre au sein de l'entreprise. Hein. Je pense que pour les littéraires, entre guillemets, enfin, tout
ce qui
est sciences économiques et sociales, etc., c'est peut-être un peu plus difficile dans l'état de notre société telle qu'on connaît. Encore que ça change. Et que on voit aujourd'hui des entreprises, en particulier dans l'assurance, dans la banque, qui cherchent à élargir leur spectre. Le conseil que je lui donnerais, c'est donc surtout de ne pas se mettre des œillères quand on est jeune et de rester ouvert et de savoir monter dans le train qui passe.
Merci Pascal Colombani pour cet entretien.
Parfait, très bien.
Merci aussi à l'association des anciens élèves de l'ENS de Lyon qui est partenaire de cette émission et qui nous aide à contacter nos invités. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Il y a une vie après normale.